Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente BFM Academy saison 15 avec Nicolas Dose et Laure Clauzier.
Voilà, bonjour, bienvenue. C'est la dernière émission coaching avant la finale du 12 octobre. C'est la semaine prochaine, dans un peu plus d'une semaine. Alors, on a eu les deux premiers finalistes la semaine dernière. On va découvrir le coaching, l'accompagnement vers plus de business de nos deux derniers finalistes qui sont emmenés pour cette saison, vous le savez, par Fabrice Marcella et Emmanuel Duez. On va commencer tout de suite par Fabrice. Bonjour Fabrice.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous retrouver pour cette énième saison déjà de la BFM Academy. Alors, qui est Fabrice Marcella? Qu'est-ce qu'il attend vraiment de sa finaliste pour cette saison? Regardez.
Fabrice Marcella, c'est le doyen du concours. C'est sa cinquième saison de la BFM Academy. Chaque année, le maire du village Baïséa noue des liens avec les candidats et les suit dans leur business bien après le concours. Il faut dire que le développement de start-up, c'est son travail au quotidien.
Mon job, c'est de gérer une relation paradoxale entre des start-up qui cherchent à prendre le leadership sur un secteur et qui, pour réussir ce pari, ont besoin des leaders et de les mettre en relation avec des grands groupes qui ont conscience de cette posture et qui, en même temps, acceptent l'idée de travailler avec ces start-up ayant besoin d'inspiration, d'open innovation, en tout cas de plus d'agilité.
Et attention, l'exigence de Fabrice Marcella monte d'année en année.
Ce que j'attends du gagnant, c'est qu'il donne envie aux autres entrepreneurs de postuler, qu'il noue des relations privilégiées avec les membres du jury, qu'il noue des relations extrêmement fortes aussi avec les autres candidats, qu'il profite de toute la visibilité qui va lui être offerte par BFM Business.
Les candidats sont prévenus, on espère que les autres coachs aussi. Fabrice ne laissera pas la chance aux débutants.
Alors, vous connaissez le principe si vous avez vu l'émission de la semaine dernière. Chacun des membres du jury a convoqué deux experts, deux spécialistes qui vont un peu challenger, poser quelques questions et essayer de comprendre davantage le business de nos finalistes pour essayer justement de les faire progresser. J'ai le plaisir de retrouver Virginie Maire. Bonjour Virginie.
Bonjour.
La finaliste de Fabrice Marcella qui est venue nous présenter Cybelle. Vous savez maintenant de quoi il s'agit. Cybelle, c'est une application de série audio. Alors attention, hein, c'est pas du livre, de la lecture de livre, c'est pas du tout du podcast de radio. Non. C'est de la création en grande partie originale pour bientôt un tiers des produits disponibles. Et puis sinon, ce sont des séries audio qui sont achetées auprès de sociétés de production. Et l'idée, c'est un peu d'avoir une sorte de cinéma audio, du cinéma sans images, dans un univers de son totalement immersif qui doit, en théorie, vous agripper à jamais à l'offre de Cybelle. Vous avez choisi deux experts aujourd'hui pour accompagner Virginie et Fabrice Marcella. Alors, qui sont-ils et pourquoi vous avez choisi ceux-là?
Alors, j'ai choisi deux experts qui vont, je pense, apporter beaucoup à Virginie, deux experts dans leur domaine. Le premier d'entre eux est Jean-Charles Caboche. Jean-Charles Caboche, c'est le vice-président de BETC. BETC, tout le monde connaît, c'est l'agence de publicité française.
Grande agence de pub, oui.
Voilà, qui est née en 1995 avec des très beaux, très belles campagnes comme celle de Air France, comme celle de Canal+, notamment. J'ai demandé à Jean-Charles de donner son regard de professionnel de la communication et du marketing, à la fois sur la manière dont tu présentes ton offre, sur ton positionnement notamment. Et en complément de ça, c'est bien de communiquer, c'est aussi bien de bien distribuer. Et je pense que pour prendre ton envol, Virginie, tu vas aussi avoir besoin de partenaires de distribution. Tu es aujourd'hui disponible, enfin tu es, le Cybelle est disponible sur les stores d'applications, mais des partenaires de distribution sont aussi essentiels pour ton développement. Et nous avons la chance aussi aujourd'hui d'avoir Franck-Louis Victor, qui est directeur de l'innovation des nouveaux médias et des services chez Renault. Donc qui mieux que lui va pouvoir en tout cas te challenger, tester ton application et dire en quoi elle peut être pertinente en tout cas pour les véhicules de demain.
En tout cas, cette application est pertinente parce qu'elle a plu à Google, elle a été désignée application de l'année par Google en 2019. Donc on va commencer tout de suite cette séquence de Virginie Maire livrée à des professionnels qui sont là pour l'aider bien sûr, hein, pas pour l'enfoncer. Vous connaissez BFM Academy, c'est une émission bienveillante. Donc Virginie, je vais vous laisser aller retrouver tout de suite Jean-Charles Caboche. Il est vice-président de la célèbre agence de pub BETC.
Je
BFM Academy. Le coaching.
Bonjour Virginie.
Bonjour Charles.
Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous aider dans votre quête concernant Cybelle. Ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est de travailler ensemble sur des choix pour votre communication. Parce que communiquer, c'est choisir d'abord avant tout une histoire. Justement, vous le savez, vous en écrivez des histoires aussi, qui soit très simple et compréhensible immédiatement par tout le monde pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière Cybelle et que ça leur donne évidemment envie de télécharger l'application et de s'abonner. D'abord, la première chose que je voulais dire, c'est que je suis très heureux de travailler sur ce sujet avec vous parce que le divertissement, c'est devenu quelque chose d'énorme dans la vie des gens, vous le savez. Pendant le Covid, on s'en est rendu compte, pendant le confinement, les gens, le divertissement leur a sauvé la vie, tout simplement. Ils sont d'ailleurs très nombreux, on fait beaucoup d'études chez BETC à nous dire, je crois qu'ils sont 90% à nous dire que sans le divertissement, ils n'auraient pas tenu le choc. Donc c'est vrai que le divertissement, c'est hyper important, c'est devenu essentiel, aussi essentiel qu'aujourd'hui l'accès à Internet ou le soin qu'on prend dans son logement. En tout cas, c'est les nouveaux essentiels que nous on voit émerger. Dans ce divertissement, j'ai regardé un petit peu les chiffres, donc l'audio, évidemment, c'est émergent, mais c'est quand même 10% des Français quasiment qui écoutent régulièrement des podcasts natifs, donc hors podcast radio. Donc c'est quand même pas rien, on parle quand même déjà de beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et puis beaucoup nous disent, je crois que c'est 75%, nous disent qu'ils en écoutent régulièrement et qu'ils sont prêts à payer pour leur podcast. Donc évidemment, ça aussi, ça vous intéresse en tant que patronne de Cybelle. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis un petit peu laborieux, donc je suis allé écouter, lire ce que vous avez, tout ce que vous avez mis en avant par rapport à Cybelle, et on va essayer ensemble, si vous le voulez bien, en tout cas, je vais faire une proposition, c'est mon métier, une recommandation de positionnement en communication. Donc la première chose que vous dites quand vous parlez de Cybelle, c'est que vous dites la plateforme premium de streaming de séries audio.
Ouais.
Alors là, moi, je dis stop, il y a trop d'anglicisme, là, on n'y comprend rien. Alors oui, peut-être les experts, les investisseurs vont s'y retrouver, mais le grand public, c'est terminé, il faut leur dire des choses plus simples. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de parler d'applications, tout simplement, parce que les applications, les gens savent ce que c'est, les plateformes, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, plutôt que de parler de streaming, moi, ce qui me fait peur dans le streaming, c'est que, notamment chez les jeunes, ça veut dire gratuit le streaming. Je ne sais pas si vous avez les ados, moi, ils me disent autour de moi, ils me disent, bah oui, j'ai regardé ça en streaming, ça veut dire qu'en gros, ils ne sont pas passés par les plateformes payantes. Donc, attention au streaming, parce que vous voulez valoriser une offre payante. Donc, moi, je dirais plutôt, voilà, une application qui offre des contenus audio de qualité. Je pense que c'est aussi simple que ça, Cybelle, et c'est déjà beaucoup de dire ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, vous dites des contenus pour tout le monde, couvrant tous les styles, thriller, comédie, fiction, documentaire. Ça aussi, c'est évidemment intéressant, je pense, dans un pitch pour des investisseurs. Pour le grand public, ça peut faire un peu peur pour des consommateurs, parce qu'en fait, personne n'est bon dans tout. Donc on se dit, ben voilà, elle nous dit à la fois c'est des contenus premium, de qualité, en même temps, elle sait tout faire. Donc qui est bon dans tout, ça n'existe pas. Donc j'ai l'impression qu'il faut, même si c'est la réalité de l'offre, peut-être l'orienter un peu différemment et trouver une façon de valoriser des éléments plus particuliers de cette offre. Et je vais vous dire lesquels, vous m'arrêtez quand vous voulez, hein, parce que je suis bavard et j'ai préparé ces éléments-là. La troisième chose, et moi ça m'intéresse beaucoup, et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai envie de vous emmener, vous dites un large catalogue pour les enfants et les ados qui constitue une alternative aux écrans. Là, je crois que vous avez touché quelque chose de très important. Alors déjà, vous avez parlé d'un public. Je pense que quand on fait de l'audio, c'est quand même bien d'être un peu clair sur à qui ça s'adresse, parce que sinon ça peut faire peur, on ne sait pas effectivement à qui. Vous savez, il y a tous les problèmes de parentalité, de comment est-ce que je peux donner accès, etc. Donc si vous dites que c'est pour les enfants et les adolescents, c'est très clair. Et l'alternative aux écrans, c'est hyper, hyper intéressant, parce que c'est une vérité humaine aujourd'hui, universelle, très forte, qui est que les parents, et j'en suis un, je le sais, cherchent désespérément des alternatives aux écrans pour occuper leurs enfants. Donc Cybelle en voilà une très belle, justement, d'alternative aux écrans, et je pense que c'est autour de ça qu'il faut certainement travailler en communication, en tout cas. Donc ça, c'était vraiment la chose la plus importante que je voulais vous dire par rapport à ce que j'aurais envie de vous recommander en termes de communication. Vous mettez également en avant le fait que c'est des histoires avec des vrais comédiens, un sound design immersif. Ça m'intéresse pas. Alors, c'est très intéressant en soi, mais ça n'intéressera pas les gens parce que d'abord, c'est une expérience. Donc, ça va toucher au bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens vont le dire, mais si vous le dites, vous, c'est bizarre. C'est-à-dire que voilà, personne va effectivement décrire de manière technique la manière dont est produit le contenu. Mm-hmm. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont ressenti, l'émotion, l'intérêt, l'histoire qu'ils y ont trouvé. Donc, laissez les gens le dire pour vous. Ça, c'est important dans le bouche à oreille. Mais par contre, c'est pas la peine d'encombrer, en tout cas, de votre discours, de cet argument-là. En tout cas, quand vous parlez, encore une fois, au grand public, après, il y a différents publics auxquels vous adressez et sur lesquels ça peut être très intéressant. Ouais. En revanche, il y a quelque chose d'autre que je trouve intéressant, c'est, vous nous dites, c'est des histoires avec des vrais comédiens.
Et donc ce sound design immersif, et en fait c'est produit, ce que vous dites, hein, c'est que c'est produit en France, et que ce sont des productions originales. Ça, je trouve que c'est deux éléments très importants à valoriser. Le fait que ce soit des productions originales, évidemment, et vous dites aussi uniques, on ne peut pas les trouver ailleurs, donc ça c'est évidemment important, et ça justifie le fait de payer, en fait, hein, donc c'est très très important. Et le fait qu'elles soient produites en France, alors c'est pas forcément, je ne le mettrai pas forcément au cœur du positionnement, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, la qualité française, on sait ce que c'est en termes de tout ça, donc ça c'est intéressant aussi certainement à valoriser. Enfin, sur le prix, moi je le trouve très compétitif, voilà, je trouve que 3,99€ par mois, si je ne m'abuse, c'est très compétitif, au regard à la fois, encore une fois, de la dimension exclusive des contenus, c'est des contenus que je peux trouver nulle part ailleurs, donc c'est extrêmement intéressant, et de la promesse de durée que vous faites aussi, hein, du temps qu'on peut y passer pour 3,99€. Donc si j'avais un petit peu à résumer ma recommandation pour vous et pour la communication de Cybelle, à la fois je dirais donc que c'est la première application proposant chaque semaine plusieurs heures de séries audio originales exclusives de grande qualité pour les enfants et les adolescents pour 3,99€ par mois seulement. Et je me suis même amusé à faire une petite signature, vous avez un petit slogan sur lequel je voudrais bien avoir votre réaction si on a encore le temps. J'ai écrit Cybelle, les grandes histoires peuvent aussi se passer d'écran. Voilà, donc effectivement, cette idée que c'est une alternative à l'écran, comme les enfants peuvent aussi s'en passer, et des grandes histoires audio, bah, c'est aussi des grandes histoires à partager.
Merci beaucoup
voilà,
pour cette grande analyse. C'est super parce qu'effectivement, ça pointe différents points sur lesquels moi, je communique beaucoup parce que ça reste des nouveaux contenus, un nouveau type de contenu. Donc c'est vrai que j'essaie de rattacher ça aussi à des choses qui sont potentiellement connues. C'est ce moment en fait où il faut un peu éduquer aussi sur un nouveau service qui arrive. Merci.
Bon, Virginie, vous n'avez pas pu en placer une. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Un portrait hyper carré de ce que vous êtes, de ce que vous proposez. Moi, j'ai retenu toujours plus universel, toujours plus proche des gens, toujours plus lisible, toujours plus accessible au maximum de gens. Comment vous avez vécu l'expérience ?
C'était hyper intéressant parce que d'avoir un regard neuf, nouveau sur son service, surtout de la part d'un énorme professionnel comme Jean Charles, c'est vrai que c'est assez challengeant, c'est assez incroyable. Il y a différents points d'entrée sur la communication pour un nouveau service, et en fait imposer un nouveau service qui rentre pas dans les cases parce que, comme vous le disiez fort justement en introduction, c'est ni du livre audio, c'est ni du podcast, c'est encore un nouveau type de contenu. Donc c'est vrai que aujourd'hui, moi, j'ai une communication qui est certainement trop longue, trop explicative.
Trop pro, en fait.
Sur l'approche de Cybelle, sur l'approche du service. Et c'est vrai que cette synthèse dont a fait que nous a présenté Jean-Charles ici permet d'aller plus loin dans la réflexion de la communication et du positionnement de Cybelle.
Donc, bon choix, hein, Fabrice.
Oui, alors c'était extrêmement riche. Moi,
il y avait un nombre de points, il faut prendre des notes là.
Alors j'en ai noté plein moi, mais au moins un que j'ai retenu, c'est l'expérience avant la technique de production. Enfin voilà, c'est l'expérience.
Moins pro quoi, moins pro,
plus grand public,
plus proche. Non, c'est super. Moi aussi j'ai appris des trucs, hein, parce que c'est pas mon métier. Bon, alors il y a un deuxième expert qui vous attend. C'est la règle de cette émission coaching. Ce sera pareil tout à l'heure avec Emmanuel Dez. Donc je vais vous envoyer retrouver Franck Louis Victor. Il est directeur média et services innovation du groupe Renault. Vous pouvez y aller, Virginie.
BFM Academy, le coaching.
Bonjour Virginie.
Bonjour Franck.
Alors on s'est croisé il y a peut-être un an et demi, je crois, quand Renault a commencé à travailler justement sur l'expérience client à bord pour créer de la valeur pour ses utilisateurs, employant ce mot très moderne là. Alors il n'y a toujours pas ton produit dans les voitures. Par contre, moi je suis abonné et abonné payant. Donc ça donne un peu une idée de mon niveau d'appréciation quand même de la plateforme et de mon niveau de croyance dans ce que tu fais. Là, ce que je vais te proposer, c'est de te faire un peu mon feedback en tant qu'utilisateur moi, et puis peut-être échanger avec toi sur mon avis plutôt d'intégrateur automobile, diffuseur peut-être justement de ton service. Alors moi, ce que j'aime, c'est la qualité, je dirais, du contenu. Et ce côté joué, en fait, avec des acteurs, tu le dis toi-même, mais c'est évident, mais ça l'est. Par rapport à un livre audio, moi j'étais très fan de livre audio, j'ai arrêté mon abonnement à la plateforme que je citerai pas pour passer sur du podcast série, on va dire. Donc ça c'est bien. J'ai bien aimé aussi le modèle économique. Alors, je suis très attentif à ces sujets-là, c'est un peu mon métier. Et c'est vrai que bon, 3,99€, c'est en dessous de cette espèce de seuil. On en avait parlé à l'époque quand on n'avait pas encore lancé la plateforme. On se questionnait tous un peu sur la valeur que ça pouvait avoir et vous êtes au bon prix. Après, j'ai deux, trois points sur lesquels je voulais te questionner. Alors, tout bêtement, on va parler d'expérience. L'interface UX, enfin, on va dire, oui, l'interface de l'application, si je puis me permettre, c'est super copier-coller. Du grand leader vidéo, je vais être un peu provocant, mais de Netflix, si on peut le citer, hein, vraiment même dans le design des icônes. Mm-hmm. Est-ce que c'est j'imagine c'est un parti pris, c'est fait pour s'installer parce que vous débutez, puis pour vous donner les moyens de faire quelque chose de vraiment spécifique à l'audio après, ou est-ce que vous voulez sticker, coller en fait à ce que fait le leader du secteur?
Alors, c'est pas tant le leader du secteur pour ne pas le renommer là-dessus. C'est de toute manière un usage qui est un peu dans les codes du streaming. Et je reste du coup sur ce terme-là, du streaming vidéo. Et donc, c'est vraiment pour garder cet univers, pour le ramener à quelque chose de connu, en fait, et de reconnu, où les utilisateurs ont ce référent dans la navigation simple et fluide de streaming de séries vidéo et donc de le caler sur du streaming de série audio. Donc l'idée, c'est voilà, d'offrir une expérience qui soit vraiment dans ce même univers, parce qu'on est vraiment une plateforme de divertissement. On est l'équivalent de la SVOD en SAOD finalement.
D'autant que tu fais de la pédagogie. En fait, c'est quand on parlait du podcast il y a 2 ans, 3 ans ensemble, c'était quand même, pour les Français notamment, c'était quand même super nouveau. Moi-même fais beaucoup de pédagogie chez nous. Tu parles de la vidéo, c'est une bonne jonction pour moi. En l'occurrence, moi je crois beaucoup à l'audio, mais augmenté. C'est-à-dire que je sais pas quel est ton point là-dessus. On a travaillé d'ailleurs chez Renault sur ça. L'audio c'est bien, mais tu vois bien que selon la mobilité, donc t'es dans le bus, t'es sur une trottinette ou dans la voiture, et ben en fait finalement tu vas consommer de façon un peu différenciée. T'as un coup de la vidéo, tu vas regarder. Typiquement, si je prends Brut ou l'équivalent, tu l'écoutes, tu le regardes, tu le lis. Ça dépend un peu de ton contexte. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous allez intégrer ou pas en fait?
Alors, l'intérêt de l'audio, c'est que on peut quand même l'écouter partout. La vraie différence, en fait, ça va être sur le choix de ce que tu vas écouter au moment où soit tu as vraiment le temps de te poser et d'écouter une fiction, et donc là, on va être plutôt sur un usage. Et d'ailleurs, on le voit dans les horaires d'usage, dans son lit le soir avant de se coucher. Et donc là, on va binger des séries avec beaucoup de personnages, avec beaucoup de bruitage, etc. Donc, qui demande quand même une vraie concentration. Typiquement, les documentaires sont plus consommés en mobilité. Le matin, quand on part au boulot, quand on est dans le métro, dans sa voiture, etc. Donc, il y a un gros usage aussi par rapport à ça. Ça dépend aussi de la durée des contenus que tu vas écouter, en fonction de la durée de ton trajet, en fonction du temps que tu as devant toi pour pouvoir écouter ça. Et nous, on a cette force-là aussi, c'est de pouvoir proposer des choses qui sont très différentes. Parce qu'on a du documentaire, on a des fictions qui sont plus ou moins longues. On peut avoir des fictions qui vont faire 10 minutes l'épisode ou 20 minutes l'épisode.
Ça, j'ai vu en tant que client. Mon conseil serait quand même de regarder, si tu veux, comment anticiper un peu les mouvements à venir. Et notamment, tu le vois avec les plateformes, les Insta et compagnie, les IGTV, où il y a quand même... Tout est parti d'un format, c'est-à-dire audio ou visuel, et finalement, tu vois qu'il y a un décilotage quand même, si tu veux, des supports entre l'audio, l'image fixe, l'image qui bouge un peu. Je pense que c'est quand même quelque chose pour l'avenir qu'il faut anticiper. Ça ne viendra pas forcément de France, ça viendra peut-être d'ailleurs, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut envisager, même si on parle d'une... Au contraire, ça peut créer de la valeur, si tu veux, en supportant finalement la qualité du jeu d'acteur, tu vois, en ayant des images qui bougent, enfin qui changent et qui finalement vont dans le sens de ce que tu écoutes. Et dernière question, avec la minute qui nous reste, en tant que diffuseur, entre guillemets, si on considère la voiture comme un média,
bien sûr,
au sens étymologique. On en a un problème, c'est l'exhaustivité. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut... parce que Cybelle, ce sont des séries plutôt. Tu as d'autres plateformes, notamment en France, qu'on ne citera pas, qui sont plus sur, on va dire, du coaching, de l'éducation, etc. Puis j'ai la musique sur un autre, une plateforme scandinave, mais qui commence à faire du podcast. Qu'il faut, il me faut 10 abonnements. Ou est-ce que, moi, alors, en tant qu'intégrateur, diffuseur, je dois avoir 10 applications et 10 abonnements derrière? Ou est-ce que finalement, toi, tu sens que, ben, il va y avoir une prime à celui qui va intégrer le plus de choses possible? Même si on ne peut pas tout bien faire, comme disait Jean-Charles tout à l'heure.
Alors moi, je ne pense pas que le positionnement sur lequel est Cybelle, en tout cas le créneau sur lequel on est, soit sur la multiplication en fait, et l'exhaustivité des contenus. Aujourd'hui, c'est beaucoup de créations originales et de qualité qui sont en exclusivité sur Cybelle. Si tu veux regarder Game of Thrones, tu sais où est-ce qu'il faut aller pour regarder Game of Thrones. Et pour regarder une autre série d'une autre plateforme de streaming vidéo, ben, il va falloir te prendre cet autre abonnement à un autre streaming.
On aura 10 abonnements alors. Mais c'est pas grave. La qualité est là, donc ça fait plaisir. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci Virginie.
Bon, Virginie, c'est terrible. Il vient, il veut tout vous faire changer. Hein. Il faut une seule appli, il faudrait mettre un peu d'image. Bon. Enfin, les questions sont là, elles sont posées, les sujets aussi. Fabrice Marcella, comment vous réagissez à ce qui vient de se passer?
Effectivement, de la part d'un diffuseur qui peut être, qui est pile dans ta cible, hein, Virginie, moi j'ai noté deux points. Le premier, c'est de regarder ou d'anticiper cette convergence des supports. Est-ce que ça fait sens ou pas? J'allais dire, au-delà même de la diffusion possible dans une automobile, hein, c'est vrai, quel que soit le support. Et la deuxième question qu'il a posée, aussi en tout cas qui m'a interpellé, c'était un peu celle que je te faisais, c'est qu'on ne va pas pouvoir multiplier le nombre d'abonnements. Comment trouver les packages peut-être astucieux qui permettront, comme le font certaines marques aujourd'hui, de diffuser d'un bloc un certain nombre de services?
Oui, non mais tout à fait. Alors, il y a des choses qui sont effectivement... très challengeante et très intéressante pour pousser toujours plus loin, parce que c'est ce qu'on fait, on est encore au démarrage, donc on cherche encore beaucoup de choses et tout est perfectible, donc c'est super, on avance. Il y a un des points, et c'est ce que je disais très rapidement à Franck, par rapport à la multiplication des supports, c'est que nous, on est quand même une alternative aux écrans, et donc de rajouter de la vidéo, ça serait un peu contre le positionnement quand même de Cybelle, donc c'est vrai que on s'attache quand même beaucoup à cette promesse-là de ce qu'on peut trouver sur Cybelle et donc de ne pas avoir besoin d'un écran pour pouvoir être immergé dans l'histoire et que ça soit plutôt notre imagination qui fasse ce travail-là des images et donc on devient son propre metteur en scène grâce à notre imaginaire et donc ça c'est ce que je trouve très fort en fait avec l'audio, de ce que permet l'audio. Et par rapport à ton deuxième point sur le package, c'est que la multiplication des abonnements va aussi chercher ce que tu vas avoir sur ta plateforme. Donc le contenu aujourd'hui qui est en exclusivité sur Cybelle, tu peux le trouver nulle part ailleurs de toute manière. Donc voilà, donc il faut donc le choix va se faire là.
Voilà, Virginie Maire, elle est la finaliste de Fabrice Marcella. Alors, chaque émission se termine comme ça. Ce sont les QQT de leur closier. Je ne sais pas ce qu'elle a préparé. C'est généralement assez croustillant. Ça peut être un peu casse-gueule aussi, on ne sait jamais. Voilà, les questions qui tuent.
BFM Academy. Les questions qui tuent.
Virginie Maire, ça va?
Très bien, alors.
Prête pour les questions qui tuent?
Allez.
Allez, c'est parti. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez gagner de l'argent avec des podcasts?
Évidemment, des podcasts, ce ne sont pas des podcasts, des histoires premium. Et pour l'exclusivité et la qualité, oui, les gens viennent.
Est-ce que sur Cybelle, exactement comme dans les téléfilms français, il y a des gens qui jouent mal?
Il y a des gens qui jouent mal, mais là, il n'y a pas l'image en fait pour penser. Donc ça s'entend. Ça s'entend et au contraire, l'importance du texte est primordiale. Les dialogues, l'écriture des dialogues, le rythme est hyper important. Et un comédien qui joue mal à l'écran, c'est un comédien qui joue mal aussi en audio.
Est-ce que vous vous êtes déjà dit un soir, non, je me fais pas engrenage, je me fais un petit Cybelle?
Bien sûr.
Ça, c'est une question facile. Hein.
Facile.
Franchement. Est-ce que vous allez faire une cérémonie comme au César ou au Emmy Awards pour remettre des prix du meilleur scénario Cybelle?
Oui, alors ça, effectivement, j'aimerais bien, parce que le processus de production est exactement le même. Donc, on finance la création, et donc tout ce processus de création est exactement le même. Donc, il n'y a pas de raison que les comédiens, les scénaristes, toutes les équipes techniques ne soient pas félicités pour avoir des rendus, comme on en a sur Cybèle, de fiction très immersive, avec du son binaural, avec des bruitages complètement incroyables.
Ça mérite des prix.
Ça mérite des prix.
Est-ce que, comme dans le cinéma, vous faites attention à la représentation des minorités dans vos fictions ?
Alors, on l'entend pas parce que voilà. Après, c'est chacun à son imaginaire, donc les minorités sont représentées dans les esprits de chacun.
Et les genres ?
Et les genres.
Faites attention dans les fictions non-genrées ?
On fait attention. Alors, il y a même des fictions un peu féministes pour le coup. Et voilà. Et donc ça, on fait attention à ça. Mais ça, c'est plus une gestion et les valeurs de la boîte en elle-même.
Est-ce que ce sont les histoires les plus violentes et les plus tristes qui marchent le mieux ?
Le true crime fonctionne
très
bien. Un
bon grand fait divers, bien sanglant.
Ça fait partie des choses qui fonctionnent très bien, ouais, c'est très accrocheur.
Quel est le comédien le mieux payé chez vous ?
Le comédien le mieux payé chez moi.
Mais bien avoir une star.
Il y a eu pas mal de stars chez nous, avec des très jolis castings. Après, c'est des scénaristes aussi qui sont des stars chez nous, pour avoir la plus belle histoire. Parce que c'est comme au cinéma, on peut avoir le meilleur casting, si l'histoire est pas bonne, ça fonctionnera pas quand même.
Dernière question, quel est la ou le candidat qui vous fait le plus peur chez les trois autres ? Donia Mamrin, Nathalie Daoud, Romain Renard.
Alors, c'est trois univers qui sont complètement différents, qui sont très loin des univers de Cybèle.
C'est qui fait le plus peur?
J'ai pas regardé les communautés de chacun. Après,
vous avez pas peur en fait?
Si, évidemment. Mais ce que j'ai dit aussi, c'est que on est tous vainqueurs dans notre secteur aujourd'hui, et je suis très contente pour chacun d'entre nous.
Merci beaucoup Virginie Mère. Bonne finale.
Merci.
Bravo Virginie, on se retrouve à la finale le 12 octobre. On marque une toute petite pause et j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Dehaze dans un instant avec Donia Amamara et Meet My Mama.
BFM Business présente BFM Academy saison 15 avec Nicolas Dose et Laure Closier.
Voilà, nous revoilà pour cette deuxième partie de l'émission Coaching. Alors, on va découvrir la dernière finaliste de cette saison et le dernier membre du jury que vous connaissez maintenant. Bonjour Emmanuel Dehaze, bienvenue. Même exercice, hein, elle va soumettre sa candidate à deux experts. Alors avant, qui est vraiment Emmanuel Dehaze, qui n'était jamais intervenu dans cette émission ? Regardez.
Emmanuel Dehaze fait son entrée dans la BFM Academy et c'est la plus jeune membre du jury que le concours ait connu pour l'instant.
J'ai 34 ans, je suis la maman de deux petites filles et la mère spirituelle et opérationnelle d'un certain nombre d'initiatives entrepreneuriales, parmi lesquelles The Boson Project, qui accompagne la transformation humaine, voire humaniste, d'un certain nombre d'entreprises, notamment des start-up, mais également des grands comptes.
Des projets et de l'énergie, notre coach en a à revendre. Son très gros point fort, c'est la communication. Elle sait parfaitement comment mettre en avant un projet. Mais attention, pas de projet sans avoir réfléchi au sens.
Un projet qui n'a pas de sens, qui n'a pas fondamentalement de raison d'être, c'est vide aujourd'hui. L'entrepreneuriat doit être au service de la construction de l'endemain qui chante. Donc c'est ça que j'attends.
Voilà, vous êtes prévenus. Emmanuel sera notre coach développement durable.
Bonjour Donia Amamara.
Bonjour.
Bienvenue, elle est la fondatrice de Meet My Mama. Vous commencez à savoir de quoi il s'agit. Je vous le rappelle quand même brièvement, elle est la finaliste d'Emmanuel. Donc, Meet My Mama, c'est une place de marché traiteur qui propose une cuisine éthique du monde entier réalisée par les fameuses mamas. Alors ça, c'est la partie traiteur, mais ce sont trois entreprises en une. Parce que Meet My Mama, c'est aussi en quelque sorte une entreprise d'insertion qui va donc donner une chance à des femmes, généralement issues de l'immigration, d'exprimer leur talent de cuisinière en réalisant des plats de leur pays d'origine. Et puis, Meet My Mama, c'est aussi une entreprise de formation, car chaque cuisinière va passer par la Mama Academy. Alors Emmanuel, vous avez choisi deux experts aujourd'hui pour essayer d'accompagner et de faire progresser Donia Amamara. Alors qui sont-ils et pourquoi vous les avez choisis eux ?
Alors le premier expert s'appelle Victor. Il a le même âge que Dounia. Je me suis dit que ça simplifierait les échanges. C'est un comédien professionnel qui joue Phèdre à Avignon, qui jouera un spectacle Tout va bien en 2021 à Paris.
C'est bien si tout va bien.
Voilà, et ça fait du bien dans le contexte actuel.
Oui, oui, oui.
Qui accompagne beaucoup des dirigeants, managers, entrepreneurs avec lesquels nous, Boson, nous travaillons.
Ah,
avec beaucoup de succès.
D'accord.
Et qui arrive à faire se transcender les hommes et les femmes qui portent un message fort de sens. Et je trouvais que c'était un des points importants pour Dounia. Elle parle d'empowerment au féminin. Elle-même doit devenir un super saiyan, comme on dit chez les Dragon Ball Z. Et donc, c'est sa mission. Et au passage, c'est mon frère. Et je suis son meilleur cobaye.
Génial. Donc,
voilà.
Et donc,
je mets entre ses mains Dounia.
Et puis, deuxième expert, donc.
Alors, la seconde experte est une amie très chère qui s'appelle Agathe Molinard. Qui est
je connais.
Voilà,
elle a fait BFM Academy.
Absolument.
Voilà.
Qui est la maman d'un petit lardon qui s'appelle Émile. Qui est en train de bosser sur un projet sublime qui s'appelle 16 mai, qui est une maison de l'esthétique. Parce que être belle et se sentir bien dans ses baskets, c'est une histoire de bien-être et d'épanouissement. Et elle est très forte sur des sujets un peu structurants, entrepreneuriaux, le business model, la finance. Et comme c'est souvent des feedbacks qui sont dévolus aux hommes, je voulais une femme pour accompagner Luna. Voilà.
Elle a changé, Agathe Molinard. Moi, je l'avais connue avec un magasin de lingerie féminine en ligne. En 2012, elle fait BFM Academy. Je me souviens très, très, très bien. Bon, ben, on va commencer tout de suite, Dounia Mamra. Donc, je vais vous laisser aller sur les canapés qui vous attendent pour retrouver Victor Duez. Il est donc comédien, mais il n'est pas que comédien, vous allez voir.
BFM Academy. Le coaching.
Bonjour Dounia.
Bonjour.
Je suis ravi de te rencontrer enfin en chair et en os.
Moi aussi.
Je me suis permis de regarder tes précédents passages et j'ai relevé quelques petites notes sur mon carnet. Je vais brièvement te faire un petit bilan, un petit check-up de tes passages pour te transformer en super CN comme le voudrait Emmanuel. N'hésite pas à m'interrompre, à me dire si tu n'es pas d'accord. Je n'ai pas la science infuse, je suis simplement là avec mon bagage de comédien pour essayer de te mettre un peu en scène et de te dire là, voilà, à première vue, tiens, Dounia, elle manque de ça, elle manque de ça, elle a ça comme force et on va essayer d'avancer comme ça tranquillement.
Ok, okay.
Alors, pour faire simple, on va aller dans des trucs très concrets. Je ne sais pas si je commence par tes points forts ou tes points faibles, entre guillemets. Je pense que je vais commencer avec tes points forts, comme ça, ça nous met en confiance.
Ok.
Le gros point positif de Meet My Mama et de toi, Dounia, c'est ton projet qui, pour moi, est universel. On a tous une mama et
exactement,
on aime tous manger.
Ça parle à tout le monde.
Ça parle à tout le monde. Donc, ton projet est un point fort. Ton deuxième point fort, c'est que tu le maîtrises complètement, puisque tu es la fondatrice de Meet My Mama, avec tes associés, et tu en fais partie. Tu as également, ce que j'ai relevé, une douceur et une vitalité qu'il faut mettre en avant. Tu es jeune, on a le même âge. C'est pas forcément un point fort d'être jeune, mais
dans ça peut l'être là.
Voilà. Dans ce cas-là, c'est très important d'avoir une énergie, un dynamisme qui te permet de vendre un projet comme celui-là.
Ok.
Maintenant, on va aller dans les endroits un peu plus difficiles à entendre.
Les axes d'amélioration.
Voilà. Je vais t'examiner. Ne le prends pas mal.
Non.
Première seconde de ton intervention, je me suis dit oula, il y a un souci d'articulation.
C'est vrai que j'ai tendance à parler très très vite. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de prendre plus le temps, de faire des pauses pour qu'on comprenne vraiment bien tout ce que je vais dire.
Très bien. Alors prendre le temps, c'est essentiel. Un des piliers de la prise de parole, c'est d'être maître de l'espace et du temps. Donc ici, ton espace est un peu réduit, mais en tout cas, le temps est le même. Si on te donne 2 minutes de parole, tu n'es pas obligé de parler pendant 2 minutes.
Oui. Surtout qu'à la finale, ça sera dans un autre endroit un peu plus grand. Donc ça me laissera aussi la possibilité de bien utiliser l'espace au bon moment.
Très bien. Donc l'articulation, très important. Ton débit de parole est trop rapide. Il va falloir réussir à le canaliser un petit peu. Je te donnerai une liste d'exercices à la fin de ces 6 minutes 30 de coaching pour que tu repartes avec un petit bagage. Et de toute façon, on se reverra pour travailler tout ça. Deuxième point très important, primordial presque, c'est ton problème de souffle. Alors, tu m'as l'air en pleine santé.
Oui.
Et pourtant, tu manques de souffle cruellement. Tes fins de phrases sont toutes essoufflées. Et ce qui t'empêche de mettre des points. C'est-à-dire que tu parles et tes phrases ne s'arrêtent jamais, comme s'il n'y avait plus de ponctuation. C'est très important quand on a un problème de souffle de faire des exercices tout simples. Par exemple, respirer dans une paille, se mettre dans une baignoire, respirer dans une paille. Respirer avec un poids sur le ventre, s'allonger au sol, respirer avec un poids sur le ventre pour sentir jusqu'où va la poche d'air. Et c'est une respiration qu'on appelle ventrale au théâtre qui est primordiale parce que j'ai l'impression que tu respires qu'avec les poumons.
Donc. C'est vrai que j'ai tendance à respirer beaucoup avec les poumons, mais à force de faire des exercices, je pense que je vais bien comprendre et réussir à respirer.
Tout à fait. L'idée, là, ça va être vraiment de te détendre physiquement. Parce qu'en fait, la prise de parole, c'est un exercice qui est 100% corporel. On a tendance à penser que ça vient de la tête. Mais tout ce qui est intellectuel, c'est le travail qui est fait en amont. Celui-là, tu l'as déjà fait, tu connais ton sujet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, tu as un vrai travail physique à mettre en place afin de rendre ton corps disponible.
Oui.
Il faut savoir, quand on prend la parole, prendre le temps présent et vivre un peu dans l'urgence. On défend quelque chose dans l'urgence. Au théâtre, on dit que le plateau est en feu et que si le plateau n'est plus en feu, c'est qu'on n'a plus rien à faire sur le plateau. Donc il faut avoir cette sensation un peu de flamme en permanence et d'urgence.
Okay. Voilà.
Autre chose, alors là c'est primordial, notamment dans ton cas, j'aimerais beaucoup que tu travailles sur le sourire.
Okay.
T'as un très joli sourire, tu sais sourire. Quand tu prends la parole, tu as une espèce de formalité qui fait que ton sourire s'efface.
Un petit peu, ouais.
Alors c'est le stress c'est super, il faut le conserver, ça veut dire que l'événement est important pour toi.
Mais surtout il faut quand même passer un bon moment. Ouais. En plus je suis très contente de faire le projet, enfin le concours, donc je vais plus sourire.
Ça, c'est essentiel. Si tu es contente d'être là, si ce n'est pas un fardeau, cette prise de parole, il faut que tu le montres.
Okay.
Le sourire, c'est très communicatif et ça va te permettre d'instaurer un climat de confiance avec le téléspectateur et avec ton interlocuteur qui sera en direct sur le plateau. Il faut savoir qu'un interlocuteur calque presque inconsciemment la gestuelle de celui qui l'écoute.
Ok, donc même les mimiques que je vais pouvoir avoir.
Complètement. Donc si tu tires la tronche, comme dans le métro, peut-être que c'est pour ça que tout le monde tire la tronche.
Ok.
Tu vois ?
Ok.
Donc il faut apprendre à sourire. L'attraction, la confiance et l'empathie. La confiance et l'empathie qui sont sûrement deux valeurs que tu défends chez Meet My Mama, avec tes mamas.
Ouais.
Je pense que c'est très important de les montrer aussi à l'écran.
Ok.
Ce qui est essentiel là, c'est que tu dois être en adéquation avec ton projet. J'ai le sentiment, quand j'écoute ton pitch et quand je vois ce que tu as fait du haut de tes 27 ans, que tu défends bien plus qu'un projet,
oui.
Tu défends bien plus qu'un objet ou un service, tu défends presque une croyance,
une conviction,
un témoignage, une conviction, un espoir. Et en fait, tu défends d'une certaine façon une vérité qui est la tienne, qui est ta vérité. Donc, tu as presque un devoir de transmission. Et donc, quand on a un devoir de transmission, on n'a pas le droit de réciter.
Non.
Réciter, c'est un exercice qui est formel. Et c'est un travail de mémoire. C'est donc un travail qui est dans la tête. Moi, j'aimerais que tu racontes une histoire. Raconter, c'est un travail qui est physique. Parce que l'émotion, c'est physique. Parce que quand on a peur, on le ressent. Quand on rit, on le ressent. Quand on pleure, on le ressent.
Oui.
Donc, il faut que tu arrives à pitcher ton projet de manière physique. Tu dois ressentir ce que tu as sûrement ressenti au tout début quand tu étais avec ton associé au restaurant et que tu lui as dit « Mais regarde, il n'y a pas assez de femmes chefs, c'est mères de famille qui cuisinent super bien », ce genre de choses. Tu dois ressentir cette énergie que tu avais au tout début qui s'est sûrement un peu délitée avec le temps et à force de refaire le même discours. Ok ? On en vient au dernier point qui est très important, c'est ta monotonie où là, tu as un travail de modulation à faire. C'est comme une musique. Il va vraiment falloir que tu travailles là-dessus. Et n'oublie pas, la technique s'apprend. Le talent s'exerce. Dans les deux cas, il faut travailler.
Oui. Mais merci en tout cas pour tous les conseils que je vais de ce pas prendre en compte et les exercices aussi qu'on pourra revoir si tu veux après.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Articuler, ne pas parler trop vite, respirer. Je me suis un peu senti visé. Hein. Moi, je dis à mes enfants, rentrez dans les consonnes pour articuler. Bon, c'est passionnant. C'est un vrai coaching de prise de parole. Emmanuel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment ça s'est passé?
Bah, je suis ravie parce que je pense que c'est en effet un vrai sujet. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Donia?
Alors, pour l'articulation et le débit de parole, quand j'étais plus jeune, on m'a appelé le TGV. Donc, je sais que de base, j'ai ce problème. Mais je sais que je vais travailler dessus et je sais que ça se travaille. Pareil pour les exercices de respiration. Il faut aussi que j'apprenne à faire des pauses. Ça, c'est des choses que j'avais déjà vues. Et je pense que je n'avais pas encore les bons exercices pour pouvoir l'améliorer. Et clairement, ça va m'aider à être beaucoup plus convaincante et à beaucoup plus incarner mon projet.
Moi, je voulais donner un petit conseil additionnel de femme.
Oui.
Parce qu'en fait, on garde de toi ce que tu projettes dans tes yeux.
Oui.
Et moi, à chaque fois que je fais une conférence ou un pitch hyper important, je me concentre 2 ou 3 minutes avant.
Okay.
Et je me dis les messages que je veux transmettre par le regard. Donc, en gros, là, on est là pour gagner, on est bien d'accord?
On est là pour gagner.
T'es une killeuse. Ton sujet, il a grave du sens, comme l'a dit Victor, c'est une cause. C'est une philosophie, c'est une vision de la société. Mais par tous les pores de ta peau, il faut le porter. Okay. Donc avec le regard, tu dis je suis une killeuse, et avec ton corps, tu dis ce projet n'est pas un projet entrepreneurial, c'est un projet de société. Et il faut que tu sois galvanisé, transcendé.
Ok.
Voilà. Bon. Et n'hésite pas à jouer sur le potentiel féminin aussi, tu vois, de tous nos trucs secrets, tu vois.
Okay. En tout cas, il y a un truc qui est vachement efficace aussi, c'est, moi je fais de la télé, c'est facile, c'est de se réécouter. On se réécoute, ouais, on vrai. Se dit, ah là j'ai parlé beaucoup trop vite, même moi j'arrive même pas à comprendre ce que j'ai dit. Et là généralement c'est pas bon signe. Mais j'ai ce problème, je parle trop vite, je connais, oh là là, c'est terrible. Bon, j'ai appris plein de trucs, je veux bien le petit vadémécom là qui vous a donné Victor. On va faire la connaissance de la deuxième experte du jour, elle s'appelle Agathe Molinard. Agathe Molinard, vous l'avez connue dans une précédente BFM Academy, maintenant elle est céréale entrepreneuse. Donc je vous laisse rejoindre Agathe Molinard, Donia tout de suite. Moi je l'avais connue Lemon Curve, c'était une boutique de lingerie en ligne. Je crois qu'elle est numéro 1 maintenant de la lingerie en ligne féminine. C'est un truc incroyable.
BFM Academy, le coaching.
Donia, on a déjà un petit peu échangé toutes les deux et je crois qu'il y a une chose que je t'ai pas dit, c'est que évidemment j'adore le projet, je salue l'énergie qui est engagée et tout l'impact en fait que vous avez pour les mamas, pour la communauté, enfin je trouve ça assez incroyable. Donc je voulais commencer par ça. Merci parce beaucoup. Que vraiment bravo. Je me pose néanmoins quelques questions en termes de stabilité notamment. Alors Emmanuel m'a justement demandé d'échanger avec toi sur le business plan et le déploiement. Oui. On en a un peu parlé déjà, mais j'ai trois points essentiels. Ce que je comprends, c'est que vous avez envie d'aller très vite.
Oui.
Pareil, je salue, c'est génial. Il y a une espèce d'euphorie derrière tout ça et beaucoup d'énergie que vous avez envie d'engager. J'ai néanmoins le sentiment que vous avez peut-être envie d'aller un peu trop vite. Et je voudrais juste que, enfin, mon but là, c'est pas vraiment de te donner juste du feedback, mais qu'on puisse un peu en discuter et qu'on essaie de construire un peu le truc ensemble. Moi, ce que j'ai vu dans le BP, c'est qu'en fait, vous prévoyez un déploiement sur 26 villes en 4 ans. Je trouve ça énorme. Et 26 villes et 4 activités différentes. Et je ne parle pas du conseil, parce que pour moi, il y a l'activité événementielle.
Ouais, traiteur, quotidien.
Traiteur, quotidien, les activités culinaires, qui sont des ateliers, on est bien d'accord.
Exactement.
Et la restauration collective. Aujourd'hui, il n'y a pas de restauration collective.
Non, pas encore. On a fait quelques événements avec plusieurs marques où les mamas avaient les cuisines de la cantine du restaurant, ouais. Enfin de l'entreprise, et cuisinaient, mais ce n'est pas encore un marché qu'on a testé sur le long terme.
Et donc, en fait, toi, tu te dis que vous avez potentiellement une opportunité et
exactement.
Vous prévoyez d'aller payer. En fait, le sentiment que j'ai, c'est que vous saisissez les opportunités et là-dessus, vous avez vraiment raison. D'ailleurs, la cinquième activité que je ne mentionne pas ici, c'est le conseil. Tu m'as dit que vous aviez déjà fait quelques missions de conseil
exactement,
auprès d'entreprises.
Exactement, en conseil culinaire notamment, où les mamas accompagnaient des grands groupes de l'industrie alimentaire ouais. Et recréaient des nouveaux produits.
Ouais, ce que je trouve top, surtout dans cette période sur laquelle l'événementiel, qui est une grosse partie de votre chiffre, est quand même un petit peu compliqué. Néanmoins, moi, j'ai le sentiment que ça va être compliqué de déployer en maîtrisant ce développement-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de se concentrer sur un nombre de villes un peu moins importantes? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi essayer d'aller chercher les activités, enfin de se développer pas uniquement sur les opportunités qui se présentent, mais vraiment les activités qui vous paraissent être à plus gros potentiel de CA et de marge aussi?
Ça
rejoindra mon deuxième point sur la réalité des chiffres. Donc tu vois, quand je vois par exemple que vous faites, vous prévoyez, alors c'est à horizon 4 ans, mais 800 000 euros de chiffre à Clermont, 500 000 à Nice, 700 à Montpellier, oui. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait vous allez créer plein de petites touches et je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent en fait.
Alors aujourd'hui, on a envie de se développer en zone. Donc c'est vrai, c'est par exemple la zone Lyon-Genève, la zone Lille-Bruxelles, donc c'est pas seulement une ville à chaque fois, donc c'est plutôt en zone, parce qu'on sait qu'autour de cette zone, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des besoins et qui nous ont déjà fait part de leurs demandes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'aller dans plein d'endroits différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des opportunités avec des clients, mais aussi avec des mamas. Mais on aimerait justement recruter une personne en responsable développement qui va essayer de creuser un petit peu plus et voir quels sont les marchés les plus
importants. Oui, parce que je pense qu'en fait, on a envie de faire plein de choses quand on est entrepreneur et c'est tout à fait louable, je peux rien dire là-dessus, mais en fait, il faut à un moment donné savoir rester focus pour bien faire les choses. Donc, rester focus sur le client, évidemment, parce que, et ses attentes, ses besoins, c'est finalement ce que vous faites quand vous répondez aux opportunités. Oui. mais savoir aussi là où on a des forces, s'appuyer dessus et pas partir un peu tout azimut, quoi. Donc, à mon avis, le BP, parce que je pense que tu risques de te faire un peu attaquer là-dessus, le BP, il faut peut-être le recentrer. Enfin, c'est pas juste le BP, hein. Le BP, c'est sympa, c'est un Excel. Mais la réalité du déploiement derrière, c'est certainement de se recentrer sur des villes sur lesquelles vous allez vraiment creuser le marché et des activités. Je suis pas certaine que ce soit pertinent d'aller sur de la restauration collective pour faire 60 000 euros. Je veux pas trahir tous les chiffres, mais 60 000 euros sur certaines villes en restauration collective sur une année, tu vois. Au-delà de ça, t'auras pas vraiment de synergie d'un point de vue commercial non plus. Alors, ce que tu me disais, c'est que jusqu'à présent, vous avez la chance d'avoir finalement de l'appel entrant, ce qui est top. Hein. La réalité, c'est que si tu veux déployer et aller vers
il va falloir
quand même travailler la partie commerciale. Ouais. Donc là-dessus aussi, peut-être essayer de travailler la récurrence auprès des clients.
Oui, c'est ce qu'on aimerait
plutôt
faire.
Plutôt que d'aller un petit peu...
Justement, aujourd'hui, on a une base de 1000 clients qu'on n'a pas bien utilisée. Et le but, ça va être de recruter...
Je pense qu'il faut déjà être bon, soyez bon sur ce que vous faites, ce que vous savez bien faire, plutôt que de répondre un peu partout, parce que, à mon avis, un peu de vous perdre. C'est un peu la crainte que j'aurais. Je vais aller vite, parce que j'ai pas beaucoup de temps. La deuxième chose sur laquelle il faut vraiment que vous bossiez, et on peut bosser dessus ensemble, c'est le réalisme des chiffres. Je connais pas bien le secteur, je me suis juste un peu renseignée. 30% de marge brute, enfin, vous avez plus de 31% de marge brute, un résultat d'exploitation de 9 points. Je trouve que c'est hyper élevé. Et j'ai un peu peur que vous soyez très optimiste dans le BP, que la réalité soit un peu tout autre et que vous vous retrouviez un peu coincé en sachant que vous avez quand même des sujets de trésorerie dont on a un tout petit peu parlé, qu'il va falloir bien gérer aussi.
Alors, c'est vrai que les premières années, elles vont être plus compliquées dans le sens où on va devoir beaucoup investir et notamment en ressources humaines. C'est ça le coût le plus important d'un point de vue charge. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait des charges conséquentes.
Ouais.
En revanche, dans le BP, on a vu qu'à partir de 2024, ça commençait un petit peu plus à se stabiliser.
Ouais.
Mais on a besoin de ces investissements pour pouvoir justement aller...
Et c'est pas évident d'avoir des investissements comme ça quand c'est sur du service. Donc, à mon avis, il faut bien maîtriser ça. Mais on pourra en reparler. Et le dernier point, parce qu'il nous reste que peu de temps, moi, j'émets quand même un petit questionnement sur le sens. Alors, je sais qu'Emmanuel t'en a un peu parlé, mais je crois qu'elle a raison, sur le sens de la notion de business. C'est un projet qui est presque un projet de société, il y a un engagement très fort. Votre objectif, c'est vraiment d'accompagner
la vision, c'est de rendre la société plus inclusive.
Voilà,
plus
et c'est empowerment des mamas. Le why, pour moi, c'est ça, du projet. Et du coup, est-ce que ça fait pas sens de le faire un peu sur un autre modèle pour être mieux accompagné aussi? Je pense qu'il faut qu'on...
On pourra retravailler dessus, on pourra te montrer en quoi on pense que le business, il est essentiel pour justement atteindre l'impact systémique qu'on veut avoir.
Ouais.
Mais on pourra en discuter.
Ouais. Je pense. À bientôt.
Bon, moi, j'ai retenu trois choses. Hein. Réalisme des chiffres, c'était la deuxième chose. Pas courir plusieurs lèvres à la fois, pas trop de lièvres. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est que Meet My Mama, une start-up d'innovation sociale? Alors, je ne sais pas, Emmanuel, si vous avez senti l'histoire comme ça.
Si, en fait, ce que j'ai senti dans le message d'Agathe, avec lequel je suis parfaitement alignée, hein, c'est deux grands messages. Le premier message, là, ça fait un peu la vieille daronne qui te donne des conseils. Je pense qu'Agathe, elle était un peu dans le même mode. C'est que, en fait, vous avez les défauts des très jeunes entrepreneurs qui se disent « Ouah, il y a un truc qui prend, donc je veux tout capturer. » Et ça, c'est un piège, en fait. Et on passe tous par là. Et donc, crois la vieille daronne, hein, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux tirer un ou deux fils et le faire particulièrement bien, a fortiori dans le contexte économique qui est très complexe, qui est le nôtre, plutôt que de saisir l'effet d'opportunité parce qu'il vient et il repart aussi vite. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message qui est plus subtil et sur lequel on va travailler ensemble avant la finale, c'est qu'en réalité, quand on t'écoute pitcher, il y a deux why. Il y a un premier why qui est vision de société, l'empowerment des mamas, par le travail, etc. Il y a un deuxième why, c'est que vous voulez faire une aventure entrepreneuriale lucrative et que donc là, tu limites le nombre de mamas pour être en capacité de construire ta petite boule de scarabée. Tu vois bien que tu as une orthogonalité entre les deux. Et donc, il faut choisir le why aussi. Donc, cet effet d'opportunité, vous l'avez à tous les niveaux. Et je pense que c'est vraiment le cœur du message d'Agathe. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, c'est intéressant. D'un point de vue chiffre, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a dû un petit peu revoir nos ambitions. Mais en revanche, le marché est très, très grand. Et au final, aujourd'hui, si justement on a diversifié nos opportunités, ça nous a permis de passer, entre guillemets, la crise. Aujourd'hui, si on était resté que sur le traiteur pendant le Covid, clairement, ça aurait été encore plus compliqué. Là, aujourd'hui, on a pu faire du conseil et d'autres missions, etc., qui nous ont permis justement de tenir. Ensuite, l'objectif et la vision qu'on a, c'est de rendre la société plus inclusive, plus durable et plus responsable, et de permettre aux mamas de révéler tous leurs talents culinaires. Et aujourd'hui, sans la partie business, et donc sans justement toutes les opportunités, l'impact, il est modéré.
C'est ce qu'il faudra prouver en finale.
Avant la finale, il y a les questions qui tuent Laure Closier. C'est la dernière séquence de cette émission avant de se dire au revoir.
BFM Academy, les questions qui tuent.
Bonjour Domia.
Bonjour.
Ça va?
Ça va et toi?
Prête pour les questions qui tuent?
Prête.
Allez, c'est parti. Quelle est la meilleure des mamas? Attention, c'est interdit de répondre toutes, on les aime d'amour, je veux un nom.
Mama Anita.
Elle fait quoi comme cuisine?
Cuisine sri lankaise, mais c'est parce que c'est notre toute première mama.
Ah. Est-ce qu'il y a des plats que vous n'aimez pas?
J'aime tout. Vraiment, non. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout difficile en nourriture et je mange de tout.
Il n'y a pas une mama qui vous ait fait un plat que vous n'avez pas aimé?
Non. Il y a toujours de l'amélioration, mais je n'ai jamais pas aimé.
Quelle est la cuisine qui a le plus de succès, toute mama confondue?
Alors nous, on parle en termes de voyage culinaire. Et je dirais que le voyage escapade berbère et Indian street food marche le mieux.
On mange quoi dans escapade berbère?
On mange des mets du Maghreb, d'Égypte, d'Algérie, de Tunisie. De la semoule, de la viande. Et au Indian street food, c'est plus la cuisine sri lankaise avec les épices.
Ça marche. Moi, ma spécialité, c'est la salade de gnocchi aux tomates séchées. Est-ce que vous pensez que j'ai mes chances dans Meet My Mama?
Si tu es passionnée par la cuisine et que t'as envie d'en faire ton métier, ouais, oui.
Moi, je crois que c'est...
La formation et la Mama Academy, elle est là pour te permettre de level up.
Lequel de vos deux associés vous préférez?
Les deux. Je peux pas répondre, les deux.
Vous aimez tout le monde, Donia. Hein. Ça va pas pour les questions qui tuent. Est-ce que vous avez déjà dû vous séparer d'une mama?
Alors, on se sépare d'une mama lorsque les valeurs ne sont plus en adéquation avec notre projet.
Et est-ce qu'il y a une mama qui s'est déjà séparée de vous?
Alors non, c'est plutôt dans le sens contraire où toutes les deux, on va se dire finalement, on a avancé ensemble, maintenant c'est terminé et on va chacun aller prendre un chemin différent. Mais aujourd'hui, on n'a pas une mama qui est partie aujourd'hui.
Est-ce que sur Instagram, il y a des mamas qui vous dépassent, qui deviennent des reines des réseaux?
Mais nos mamas sont des stars et le but, c'est de les starifier.
Combien pour vendre Meet My Mama? Est-ce que vous avez un chiffre dans votre tête?
Le plus haut, je sais pas, le montant le plus fort.
Mais un jour, vous vendrez?
Un jour, je vendrai. Peut-être que j'irai... Non. 10 millions.
10 millions?
10 millions.
Bah écoutez, faites vos offres, c'est ouvert. Lequel des trois autres candidats vous fait le plus peur? Est-ce que c'est Romain Renard? Est-ce que c'est Nathalie Daoud? Ou est-ce que c'est Virginie Maire?
Je dirais que les trois projets sont vraiment incroyables et les trois ont un potentiel vraiment, vraiment important. Mais si je devais en choisir un, peut-être que je partirais sur Nathalie Daoud puisqu'elle aussi, elle s'attaque à l'insertion professionnelle. Donc ça serait peut-être ma première, entre guillemets, concurrente sur le marché.
Vous êtes plus concurrente sur le business. Donia, il ne faut pas aimer tout le monde, hein. C'est pas possible. Hein. Il faut être un peu méchant. Hein. Vous savez que c'est exactement le conseil que j'ai donné à Jackie Chan-Hui et il a gagné. Mais il est resté gentil.
Je vais rester
gentil. Il
n'a
pas suivi mes conseils.
Et je vais gagner.
Allez, bonne finale, Donia.
Merci beaucoup.
Voilà, cette émission est maintenant, enfin cette émission, pas la saison, l'émission est terminée. On se retrouve lundi 12 octobre à 19h30 pendant 1h30 en direct sur BFM Business. Ce sera la grande finale où il faudra départager Meditext, Uplink, Cybelle et donc Meet My Mama. On compte sur vous car vous voterez ce jour-là.
BFM Academy saison 15, le 12 octobre, il n'en restera qu'un.